Bonjour, donc on va commencer. Merci beaucoup d'être venu sur ce film. Vous êtes très nombreux et je crois que vous avez eu raison de réserver votre soirée. C'est un très beau film. Alors je vais commencer par, parce que je sais qu'après on va parler du film, de la lutte de Plogoff. Et donc nous avons un protagoniste du film avec nous et puis Nicole, la réalisatrice. Moi, je veux faire une petite introduction sur Nicole Le Garec, Nicole et Félix. Alors, je commencerai par quelque chose de très personnel. C'est, je revois Félix sur le balcon avec son double bande venir nous faire une projection dans les années 80. Le film s'appelait « Oranges are not the only fruit ». Voilà, et c'était... Donc, je pense à ça. Ils appartiennent à notre histoire de cinéma, du moins à la mienne, qui suis dans ce projet depuis très longtemps. Ils savent ce qu'on fait parce que ce sont des gens qui se sont battus, Félix et Nicole, pour que le cinéma existe et dans des territoires qui sont très difficiles. Hein, la Bretagne, à l'époque, c'était très difficile, il n'y avait rien. On commence dans les années, tu vas me corriger parce que peut-être je me trompe, 60 ? Voilà. 60... On est à Plonéo-Lanverne. Il y a le petit magasin de photos de Félix, photographe. Félix est un photographe et bien sûr, Nicole est là. Et Nicole trouve que la photographie, c'est un peu fixe. Donc elle va commencer à aller trouver les gens, interviewer les gens. Et vous verrez l'importance du travail de Nicole dans l'interview, dans ce film qui est, moi je pense, un vrai petit bijou pour ça. Et elle va, je dirais, innover presque, hein, cette, je dirais pas technique de l'interview, parce qu'on ne parle pas de technique dans ce cas-là, c'est juste ce qui sort d'une personne et qui est capable de donner. Voilà. Et elle va commencer par sa famille, hein, peut-être ce sont les premières personnes. Elle va s'intéresser à la langue bretonne. Elle va rayonner autour, comme elle rayonne dans Plogoff, comme elle rayonne avec les femmes de Plogoff. Et puis arrive 68, ça bouscule un peu les habitudes de tous les gens, hein, et la vôtre, entre autres, de Félix. Et 69, c'est la rencontre avec René Vautier, et on ne peut pas les dissocier tous les trois, et on ajoutera le son après. Voilà, ça fait quatre personnes qui sont très présentes. Et ils vont créer ensemble, ils vont laisser un peu le magasin de photos, hein, je pense qu'on... On tire le rideau, on le descend, et ils vont créer ensemble l'UPCB, qui est une maison de production et où là, on va être sur les films en Bretagne, produits en Bretagne, des réalisateurs bretons. Vous êtes à l'époque, les Cold Iwan vont arriver, hein, c'est à peu près ça, et puis il va commencer à y avoir des producteurs à Rennes, on pensera à Michel... Guillou, on se disait avec Nicole, il y avait au César un film de Vivement Lundi, aux Oscars, pardon, de Vivement Lundi, et ben voilà, c'est la filiation des Le Garec, de René Vautier. Quand on les voit là, c'est tout ce qu'ils ont construit en Bretagne. Et puis, je vais sauter. Alors, dans les films, il y en aura un que vous connaissez parce que. C'est « Quand les femmes ont pris la colère », qui est fait par Soizic Chapdelaine, qui se passe à Couëron. C'est la lutte des femmes qui vont séquestrer le patron. Hein. C'est ça, et on l'a souvent passé ici. Voilà, puis il y en a d'autres. Et puis, bien sûr, il y aura le film de Vautier, « Avoir 20 ans dans les Aurès », qui est le film culte, et qui sera peut-être le deuxième film à aller à Cannes, puisque... Vautier est allé à Cannes avec ce film-là et toi, tu y es allé l'année dernière avec Plogoff. Voilà, et c'était absolument remarquable de voir toute la salle se lever et à Cannes et applaudir Plogoff. Moi, j'ai été très émue quand même. Je me disais, il y a quelque part une justice, voilà, dans le cinéma. Parce que c'est pas toujours comme ça. Hein, et, ça va... et elle disait cet après-midi, Nicole, à un journaliste, elle disait, on n'a jamais demandé de subvention pour ce type de film. Donc, on l'a fait avec mes propres sous, jusqu'à hypothéquer ma maison, hein, leur maison. Voilà, donc Félix et Nicole, deux personnages extrêmement importants. Alors, on parle de Nicole comme pudique comme les Bretonnes. Voilà, j'ai lu ça. Je ne sais pas, avec une certaine pudeur, une certaine réserve. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, c'est une productrice très, très virulente qui a su défendre ses films. Et on a retrouvé Nicole aussi dans quelque chose qui est extrêmement important, c'est quand Langue arrive dans les années 80, on crée des ateliers artistiques et culturels, et entre autres des ateliers cinématographiques. Et c'est là que Nicole va prendre les rênes de l'ARC, l'atelier régional cinématographique de Bretagne. Et là, voilà, ça a été de longues années, hein, Nicole, et de beaucoup de douleurs aussi, je pense aussi, mais beaucoup de... Enfin, il faut voir le côté positif. Je pense que tu as fait un travail remarquable parce que ça a formé. Il n'y avait pas d'école de cinéma à l'époque. Hein. Faut vous dire ça. J'essaie de le dire. C'est ça a formé beaucoup, beaucoup de gens au cinéma. Et voilà. Et aujourd'hui, on arrive sur ce Plogoff avec Nicole parmi nous et Félix, donc, qui n'a pas pu se déplacer parce que, bah, comme tout le monde, on vieillit. Hein, et Félix dépasse les 90 ans et ce n'est pas toujours facile de se déplacer. Et juste, je dirais, une dernière information. Il y a le film... Alors, Nicole va parler de sa fille et de son mari. Alors, son mari, c'est Félix. Et sa fille, c'est Pascal. Et sa fille, on lui doit beaucoup de choses parce que c'est elle qui mène cette restauration qui est très, très belle. C'est-à-dire, elle intervient dans la restauration du film. Et c'est peut-être, je dirais pas une histoire de famille, mais une histoire de convaincus et des gens qui se battent très, très fort pour que... on puisse tous partager et que ce soit collectif. Voilà, donc voilà l'histoire un peu de Nicole. Et puis je terminerai, donc Félix aujourd'hui expose, il a encore exposé cet été au Port-Ru à Douarnenez, une très très belle photo, marin pêcheur bien sûr, ce que j'ai pu en voir. Et puis, eh bien, il y a des archives énormes dans cette famille. Et en ce moment, alors vous pourrez peut-être chercher sur Internet, il y a une association qui s'est montée, qui s'appelle les Amis de Félix et de Nicole, et qui essaie, alors à l'aide de... Il y a Pascal, mais il y a beaucoup de gens. Il y a entre autres une personne que je dois aussi nommer, qui est Erwan Moilic de Douarnenez, qui est quelqu'un qui a aussi appartient à cette histoire de cinéma en Bretagne. Et donc, ben, vous pouvez adhérer à cette association-là. Et c'est pour sauver, alors les films, non, parce que c'est déjà fait, mais c'est surtout les photos qu'on puisse remettre au collectif toutes les photos de Félix. Voilà, on aura fait le tour. On va passer sur Plogoff. J'espère que j'en ai oublié beaucoup, mais voilà, et je suis si contente de t'avoir là. Mais je pensais qu'il fallait parler de cette histoire-là. Et puis, il faut parler de la réalisatrice parce que beaucoup d'entre vous viennent voir une lutte. Moi, j'ai revu le film là, il n'y a pas longtemps et je l'ai revu plusieurs fois. Et c'est un très beau film. Je le dis avant le film pour que vous soyez attentifs. Vous n'interviewez pas les gens comme c'est fait dans Plogoff. On ne va pas vers les femmes et on n'a pas cette proximité si on ne sait pas faire un film. Et si Félix est à l'œil de la caméra, Nicole est à la plume. Et c'est un film qui est complètement écrit, même si on pense qu'on a la caméra. Voilà, ils sont à trois. Hein. Voilà, tu vas peut-être dire un mot avant. Mais c'est un film complètement écrit, complètement construit, d'une sensibilité remarquable. Et voilà. Et je vous invite, pendant la projection, à suivre ça, parce que rien n'est un hasard dans ce tournage, même si... on est dans une lutte et il y a de l'imprévu. Voilà, donc je te laisse la parole, parce que j'ai suffisamment parlé. Voilà.
Merci Catherine. Voilà, donc c'est la version restaurée que vous allez voir. Tout à l'heure, il y aura le débat, donc je répondrai à vos questions, bien entendu. On parlera de sujets différents. L'avocat de la défense qui défendait, l'un des avocats qui défendait la cause de Plogoff et les manifestants, les gens de Plogoff, est dans la salle. Je le remercie d'être là, c'est Jan Schuck. Et donc, tout à l'heure, pendant le débat, il pourra, si vous avez des questions, et je vous engage à aborder ce sujet. C'était pas rien non plus, c'était bien compliqué aussi de défendre les gens de Plogoff à ce moment-là. Et il a même été, vous verrez dans le film, qu'il a été sanctionné. Voilà, il y a toute une histoire autour de ça aussi. Je vous souhaite donc une bonne projection et puis à tout à l'heure.
Ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. Déclaration de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, au journal Le Monde, le 26 janvier 1978.
Président, Plogoff est une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Nous sommes informés qu'une centrale nucléaire est prévue sur nos terres d'ici quelques années.
EDF ne mettra jamais une centrale nucléaire à Plogoff.
Pensez que vous irez jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Il faudrait, pour qu'il puisse y venir, qu'il fasse le vide à Plogoff, c'est-à-dire qu'on nous mette sur une île, je ne sais pas moi, que... Il faudra vraiment faire le vide à Plogoff pour pouvoir y venir.
On va la refuser.
Plogoff, 2300 habitants. Dernière commune à la pointe du Vieux Monde. Demain s'ouvre l'enquête d'utilité publique pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Une enquête qui sera longue. Le préfet du Finistère a fixé sa durée à 6 semaines.
On a toujours refusé, depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi que maintenant, ben, au bout de 4 ans de lutte, ben, qu'on viendrait nous l'imposer.
Vous pensez qu'à Plogoff, ici, on est prêt à résister jusqu'au bout.
Et qui se méfie. Et voilà. C'est tout.
Voilà, donc on va voir réalisatrice et protagoniste du film, Yanchuk. Voilà.
C'est-à-dire que ça me fait un peu quelque chose de vous retrouver dans cette salle ce soir, parce que ces événements, ben, on fête le 40e anniversaire. On est en plein dans la période où ça s'est produit il y a 40 ans. Ça se voit d'ailleurs quand on voit sur l'image. J'ai pris quelques années depuis.
Est-ce que vous avez des questions? Parce que tout de suite.
On peut préciser peut-être certaines choses.
Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Nicole et peut-être on peut parler de la genèse du film. Si tu peux aussi nous expliquer comment tu es arrivée.
Alors, donc, je voulais juste dire que défendre les loulous que vous avez dans le film, ce n'était pas une mince affaire. Et je remercie Yanchuk pour le travail qu'il a fait. C'était très important, évidemment, d'avoir une bonne défense. Non, mais le sanctionner, ça a été toi.
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'après, bon, on avait fait appel de cette décision, sauf que ça a reporté le procès, ça a maintenu les gens quelques jours de plus en prison, mais que la cour d'appel a annulé la décision de Quimper.
On va en parler tout à l'heure, parce que c'est un petit chapitre à lui tout seul. Alors, pour la genèse du film, donc... Ce film a eu beaucoup de mal à naître parce que c'était de la pellicule à l'époque, c'était pas de la vidéo, donc du 16 mm. Hein. Et la pellicule, ça coûte cher. Et donc mon mari, qui a un peu plus les pieds sur terre que moi, me disait pas d'argent, pas de film, évidemment. Et donc, moi qui voulais absolument... j'ai tout de suite pensé qu'il y avait un film à faire, qu'il fallait vraiment témoigner. J'ai réussi à le convaincre de venir donc à Plogoff avec la caméra, et donc Jacques Bernard qui est le preneur de son, qu'on aille tous les trois à Plogoff. Et là, l'image de la population de Plogoff réunie, tout âge confondu, hein. Il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées. Alors là, Félix, il fonctionne aussi à l'affect, un peu comme moi. Et puis là, il a dit, bon, là, il faut y aller, quoi. Il faut faire quelque chose. Et du coup, on a fait le tour des banques, jeté plusieurs fois. Et il y en a une qui a accepté de nous faire un prêt très important, parce qu'on a effectivement... hypothéquer notre maison pour ça. Donc voilà, c'est le côté un peu difficile. Ensuite, une fois qu'on a commencé à tourner, très vite, une femme de Plogoff, Marie Carval, celle qui fait le goûter, là, avec sa grande cafetière, Marie nous a dit... vous n'allez pas rentrer chez vous tous les soirs, c'est un peu loin et c'est vrai, une bonne heure de route. Vous allez dormir là tous les trois. On a donc été hébergés, on a mangé chez elle et tout ça. Et voilà, un peu les circonstances de la naissance du film. Et bon, je vais répondre aux questions. Vous avez peut-être d'autres questions pour préciser ou sur d'autres sujets. Et Yann Chouk est là donc, pour le chapitre dont on parlait tout à l'heure. Hein.
Donc, concernant ensuite la distribution du film, est-ce qu'il est sorti dans beaucoup de salles est-ce qu'il y a eu beaucoup d'entrées? Ou alors, est-ce qu'il était diffusé dans des cercles restreints?
Alors, là, vous parlez en 80.
Oui, en 80.
Oui. Alors, en 80, c'est vrai que ça a la distribution a une histoire aussi à elle toute seule. On termine le film donc en août 80. Erwan Malik, qui était le directeur du Festival des minorités à Douarnenez, vient nous voir en disant voilà, il serait bon que ce soit au festival à Douarnenez, que la première ait lieu, parce qu'on avait pensé le faire à Plogoff. À Plogoff, il n'y a pas de salle, mais bon, comme c'était en 16, et il nous convainc donc d'aller à Douarnenez. On le projette donc dans une salle qui s'appelle le Club à Douarnenez, et le soir, noir de monde. La rue, de haut en bas, c'est une grande rue, noir de monde, plein de spectateurs. Plus tard, quand il était en retraite, le commissaire de police de Douarnenez m'a dit qu'il avait reçu l'ordre de Paris d'aller piquer la copie. Une copie 35, c'est pas comme aujourd'hui, un petit truc, c'était vraiment lourd, visible, hein, très visible. Donc il m'a dit, ils sont complètement fous à Paris, ils ne se rendent pas compte. Bien entendu, j'ai désobéi parce qu'on aurait été lynchés. Une foule comme ça, attendant le film, et quelqu'un qui vient vous enlever la pellicule. Bon, voilà. Donc le film, l'exploitant de salle le repasse. On passe presque toute la nuit à le projeter. Le gars s'appelait Paul Guillard. Au matin, il se dit qu'il y avait quelque chose à faire pour ce film. Et il décide donc de créer, avec deux autres exploitants de salles bretons, un de Lorient, un de Saint-Brieuc, donc trois, de créer une société de distribution pour le film. Et à partir de là, ils prennent en main le film, c'est-à-dire qu'ils vont le gonfler en 35, ce qui rendait possible donc la projection dans les salles. Et ils prennent un directeur, ils prennent, ils louent quelque chose à Paris, et ils font un travail autour du film. Et donc, on est allé un petit peu partout dans toute la France. Le film a eu une belle distribution, tant et si bien que Jacques Lang, par exemple, quand il est venu à la région, voilà, il fallait convaincre aussi la région que le film pouvait avoir de l'intérêt. Or, la région était pour la centrale à ce moment-là. Toutes les collectivités de Bretagne étaient à droite et très favorables à la centrale. Et il leur a dit, écoutez, je comprends que le sujet du film puisse vous gêner, comme il sait faire, mais ce film est un miracle. Il était un miracle pour lui parce qu'il avait fait beaucoup d'entrées très vite et il y avait peu de documentaires à l'époque qui passaient dans les salles. Aujourd'hui, la qualité des documentaires a vraiment beaucoup augmenté et donc il y a quand même pas mal de documentaires qui passent en salle. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, quand un documentaire faisait 3000, 4000 entrées, c'était beau, quoi. C'était bien. Celui-ci fait 100 000 en trois mois. Et donc, il a eu une vraie sortie, quoi. Il a eu cette chance. Et je remercie les salles de cinéma parce que c'est, pour des films de ce genre, c'est ce qui peut sauver un film. Les chaînes de télévision n'ont jamais acheté ce film, qui leur déplaisait, parce qu'elles n'ont pas fait, elles n'ont pas fait vraiment leur travail sur l'événement Plogoff. Hein, au niveau médiatique, ça n'a pas toujours été. C'est Ouest France qui a soutenu la lutte. Hein, et voilà. Donc, oui, on a eu une belle sortie, quoi. L'histoire se terminait bien.
Par rapport au montage, quelle est la quantité de rush filmé, enfin, par rapport à la durée du film, combien de temps vous avez filmé? Vous avez parlé des conditions financières qui faisaient que vous ne pouviez pas filmer tout le temps. Et qu'est-ce qui faisait que le regard de la caméra s'arrêtait, enfin, démarrait plutôt sur certains moments et pas à d'autres? Contrairement à aujourd'hui où
oui,
on filme,
oui.
On continue.
Alors, simplement parce que ça durait pas très longtemps. La pellicule, il fallait recharger et on n'avait pas de magasins, tellement de magasins, on en avait deux peut-être. Donc, au moment, par exemple, un moment crucial, où après le vendredi noir, on se retrouve à la mairie assez désemparé. C'est d'ailleurs là, après ça, que on aura besoin d'avocats, enfin, un peu après, mais là, vraiment, vraiment. On se retrouve à la mairie, y a un flottement. C'est pas bon du tout dans un mouvement comme celui-là, quand on est donc dans la lutte, que tout d'un coup, on se mette à hésiter. Y a une division possible, toujours. Et c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Et le maire parle, Jean-Marie Carlor, et ce jour-là, il n'arrive pas à convaincre vraiment. Et l'adjointe au maire, qui est Amélie Carlor, mais qui n'est pas de la famille, hein, les Carlor sont assez nombreux dans le Cap-Sizun, je crois qu'il y en a un dans la salle d'ailleurs, Amélie prend la parole, et là, elle trouve le ton, elle trouve les mots. Elle leur donne un projet et c'est reparti. Et Félix n'a plus de pellicule. Et donc, c'est là où on a pensé aux images fixes. C'était quelque chose qui nous a plu d'ailleurs parce que il y a un travail à faire aussi avec les images fixes. Et donc, la question que vous posiez. C'était ça. Il y avait plus de. Ça se terminait au bout de 10 minutes. Ça passe vite dans ces cas-là. Et le temps de recharger. La séquence. Bon, c'était un problème que le son n'avait pas, quoi.
Moi, je vais vous remercier pour le film. Je suis un vieux Brestois qui était à Brest en 1980, donc je me souviens bien de Plogoff. Une question historique sur le poids du maire de Plogoff, parce que si on compare à Lamoco Cadiz où le maire de Port-Sal avait été très emblématique, on devine un petit peu dans le film que la population de Plogoff était très soudée, mais tout de même que les élus locaux ou le maire n'étaient peut-être pas à la pointe du combat. Vous l'avez évoqué un petit peu là, à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le poids du maire et le poids des élus locaux? Bon, la région de Bretagne était effectivement pro-nucléaire à l'époque, ça ne fait pas de doute. Mais le département, par exemple?
Alors, il y avait quand même une volonté d'être assez horizontale, de ne pas avoir de chef, comme ils disent. Hein. Donc, si le maire avait pris trop les choses en main, ça passait mal avec des rebelles comme il y en avait pas mal. C'était, vous voyez, on le voit dans cette scène, c'est pas parce qu'il est maire qu'il va être écouté, quoi. Il faut tout d'un coup trouver le mot juste, le ton, le voilà, il y a quelque chose. Mais il a fait par contre, il y a eu des moments où le maire Jean-Marie Kerlor jouait vraiment son rôle. Il y avait aussi un comité de défense, donc il fallait aussi que qu'un équilibre soit réalisé. Et les gens, on leur a laissé. Je trouve que c'est vrai qu'à Port-Sal, il y a eu cette action du maire. Voilà. Ici, il y avait une certaine démocratie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on avait besoin de tout le monde. Et en donnant un certain espace à tout le monde, chacun trouvait sa place. C'est-à-dire que ça laissait donc place à des initiatives que les gens n'auraient peut-être pas prises autrement. C'est-à-dire que si quelqu'un prend la direction d'une façon musclée, là, ben les gens disent oh, « il va faire le travail ». Ça arrive quelquefois dans les associations, vous savez. On dit « ah, les jeunes, ils n'adhèrent pas, ils ne font pas ». Ben, peut-être qu'on ne leur laisse pas vraiment la place non plus, quoi. Tandis que là, il y a des gens qui, par exemple, une personne, elle achetait tous les livres qu'elle a trouvés. C'était un homme, tous les livres qu'il avait trouvés sur le nucléaire. Et puis, elle a fait un choix. Elle trouvait que c'était un film belge qui était le plus intéressant, qui montrait les dangers du nucléaire de façon plus claire. Et acheté donc un grand nombre de ce livre et est allé le remettre dans les mairies du Cap Sizun. Voilà, il n'a pas eu besoin de demander l'autorisation à qui c'était. C'était comme ça. Et beaucoup d'actions se sont faites. Alors, il y avait des actions concertées, bien évidemment. Hein, on ne peut pas se passer de ça. Mais il y avait une certaine liberté. Et finalement, les gens, par exemple, le goûter. Hein, c'est la femme qui... elle a pris naturellement ce rôle. Parce que c'était une tradition en Bretagne, le goûter, c'est très important. Et là, elle invitait des gens qu'elle connaissait, mais elle pouvait inviter d'autres personnes qui venaient pour la première fois à Plogoff. Après avoir eu du café chaud, une crêpe, tout ça, on repartait de Plogoff en disant bah, « je reviendrai hein. ». Il y a la grand-mère, par exemple, qui est dans le film... avec sa petite coiffe. Je ne sais plus si c'est elle ou une autre de son âge à peu près, qui habitait près du pont du Loc, là où se faisaient les affrontements de nuit. Et évidemment, les jeunes qui faisaient la construction de barrages étaient poursuivis par les forces de l'ordre. Et elle ouvrait sa porte, elle refermait la porte, ils dormaient là, Et le matin, les amis étaient en train de se désoler. Je me rappelle un jour qu'ils se désolaient en disant, voilà, il a été arrêté, voilà, et tout. Bon. Et en fait, il arrivait, lui, frais et rose. Il avait passé la nuit dans un petit penty. Et tout allait bien, quoi. Il y avait comme ça des tas de... d'initiatives. Bon, il y a eu la bergerie, le GFA, enfin, il y a eu des choses qui sont nées aussi du partenariat avec le Larzac. On a beaucoup... ça a servi d'exemple pour certaines actions. C'était un combat qui avait des ressemblances, des points communs avec le nôtre. Et c'était un bon partenariat.
Moi, je vais te poser une question. C'est sur les gens. Qui sont-ils, ces gens qui entament la lutte? Parce que c'est intéressant. Voilà. D'où ils viennent? Ce ne sont pas des militants qui ont l'habitude de fronder les pouvoirs publics.
Et comment vous ne réagissez pas, messieurs les gardes mobiles, là?
Alors, la liberté.
Hein, c'est d'ici 5 heures ce soir. France,
liberté, égalité, fraternité.
C'est à 17 heures le soir que ça remonte. Hein? Là, maintenant, ça ne bouge plus.
Alors, hein? On vit ici. Hein?
On est né ici, on vit ici, on va mourir ici. Alors, si on ne l'avait pas compris encore, il est temps d'ouvrir les oreilles. Hein?
Voilà. Il se retire quand même.
Il a honte, sûrement. Dieu crapaud.
On l'a vu d'ailleurs dans le film, c'est pas des frondeurs. Jean-Marie Kirlor, c'était un ancien de la Royale. Ils leur disent d'ailleurs, moi j'ai obéi toute ma vie. Alors, il y a une confrontation moi, qui m'a beaucoup amusé. C'est celle avec le commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur, c'est l'amiral Georges Lain, c'est-à-dire un ancien haut gradé de la Marine nationale à laquelle appartenait. Vous savez, sur le bord de la côte, dans ce coin-là, où on est marin-pêcheur, où on est marin de commerce, où on est marin de la Royale. Et puis, accessoirement, agriculteur et commerçant, si on peut. Et cet affrontement, si vous voulez, entre celui qui représentait l'autorité dans toute sa splendeur, qui était dans le rôle du traître et du tricheur, et les gens de Plogoff, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que c'est... En changeant de peau à sa retraite et en arrondissant ses fins de mois en faisant le commissaire enquêteur, il s'est déconsidéré vis-à-vis des gens qui autrefois étaient en admiration et en respect devant lui. Il est tombé de son piédestal. Et ça, c'est un truc qui m'a frappé. Au point d'ailleurs qu'il a pris des noms d'oiseaux, etc. Bon, on n'aurait pas imaginé, dans la période antérieure, qu'il puisse se faire traiter de cette manière. Bon. Non, et ça, c'est assez frappant, comme quoi... Bon, et on est à ce moment-là, quand même, en 80, en pleine période de mutation. Il y a un régime qui s'achève, une relève qui va être prise quelques mois plus tard, enfin, un an plus tard. Et je crois qu'effectivement, ça montre aussi cette espèce de volonté autoritariste de faire à tout prix qui se heurte... à ce qui est l'essence de la démocratie, c'est-à-dire la volonté populaire. Les gens ne veulent pas et on leur impose.
Oui, concernant la population de Plogoff, c'est aussi ça qui m'a intéressée, parce que c'est assez rare quand même dans des combats que l'on voit des gens anciens militaires ou de marins de la Royale qui tout d'un coup... deviennent révolutionnaires, comme il dit dans le film, devenus révolutionnaires par EDF et ces messieurs, montrant les commissaires enquêteurs. Et la préfecture et l'État pensaient qu'à Plogoff, contrairement à Erdeven ou d'autres sites, à Plogoff, comme il y avait des personnes âgées et des retraités, ils auraient évidemment gain de cause. Et j'ai eu la certitude de ça un jour où c'était un des jours du procès. Et on était arrosés. Vous avez vu que les lances à incendie nous arrosaient copieusement. Et une femme à côté de moi s'est trouvée mal. Et à deux, on est allé au café le plus proche. Et je pensais l'amener là et repartir. Évidemment, mon rôle de cinéaste n'était pas d'être dans le café, mais bon. Et au moment de partir, il y avait des barrages. Toutes les rues étaient barrées. Je ne pouvais pas. J'étais obligée de rester là. Et je pouvais, enfin, dans l'état d'esprit où j'étais, je ne pouvais pas prendre un café tranquillement, quoi. Je me dis, je vais faire de l'information. Et j'avise donc un homme avec sa bière, là, je vais vers lui et je lui dis, est-ce que vous savez ce qui se passe à Plogoff ? Il me regarde et il me dit, avec moi vous n'avez pas de chance, je suis un Hergé. Et là, et nous on fantasmait, nous les rebelles, on fantasmait sur les Hergé. C'est à peine s'ils existaient ou alors ils étaient dans un autre monde. J'en vois un tout près. Et il continue et il me dit, je suis un Hergé, mais je suis de Plogoff. Et moi, je leur ai dit, à Plogoff, à la préfecture, quoi, hein, à Plogoff, ce sont des durs. Vous allez vous casser les dents. Ils m'ont ri au nez, qui me dit. Alors, tant pis pour eux. Ils m'ont dit à Plogoff, il n'y a que des vieux, des militaires et des femmes. Bon, ce n'est pas les femmes qui vont... Hein, et les militaires ne se sont jamais insurgés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire non plus. Donc, tant pis pour eux, me dit-il. Et voilà, donc j'ai compris qu'effectivement, l'âge, la profession, tout ça jouait un rôle aussi dans le choix de site, quoi. EDF avait mis aussi « population crédule ».
Ah oui, les bécassines, vous savez, ils en parlent d'ailleurs. Les Bretons étant crédules et par nature soumis et obéissants, c'était mal les connaître. Il y a des choses aussi qui sont très frappantes. On est sur la côte. Et elles le disent d'ailleurs, celles qui parlent dans le bus. C'est elles qui tiennent la boutique. Les hommes, ils sont pratiquement tout le temps absents. Ils sont en mer. Pour pêcher, pour être sur des navires de commerce, ou être dans la royale. Donc c'est elles qui tiennent les rênes et elles n'ont pas peur de s'affirmer, vous avez pu vous en rendre compte par moment.
Elles ont fait craquer plus d'un garde mobile, en fait. Hein.
Et encore, on n'a pas tout entendu.
Oui, on n'a pas tout entendu. Mais
parce qu'il y avait parfois des commentaires qui usaient, qui ne sont pas dans le film.
Un peu limite qu'on n'a pas pu mettre.
Un peu limite, au-delà de la limite, oui. En leur demandant si leur solitude ne leur pesait pas trop et si, pendant qu'ils étaient là, leurs épouses, pendant ce temps-là, ne s'ennuyaient pas trop non plus. Je le dis de manière un peu évanescente.
Elle se met le doute.
Oui. Ah non, mais elle le disait de manière nettement plus crue. Hein.
Oui, oui. Les femmes qui devaient rester au foyer, qui ne seraient jamais sorties de leur fourneau, elles se sont retrouvées là le premier jour et elles n'ont rien lâché. Et c'était un combat de femmes aussi, quoi. Hein. Oui, oui. Et puis d'ailleurs, vous le voyez dans le film, ça se sent quand même. Hein.
Ils avaient cette stratégie. Il y a deux choses qui m'ont frappé en revoyant le film aujourd'hui, d'ailleurs, plus que l'audio. D'une part, ces femmes, on met en fait les plus âgées au premier rang, en se disant ils vont pas oser taper sur les vieilles. Et c'était une stratégie délibérée. Et puis la deuxième, c'est l'amateurisme des CRS. Vous avez toute cette scène là où ils balancent les lacrymos, mais ils ne savent pas qu'ils sont sur le cap et qu'il y a du vent. Et en fait, tous les lacrymos, les autres se sont mis sous le vent parce qu'ils connaissent la mer. Et toutes leurs lacrymos leur reviennent sur la figure. Moi, ça m'a frappé, ça, tout à l'heure.
Oui, on a bien ri ce jour-là. Les manifestants ont bien ri ce jour-là, c'est vrai.
Ah oui, c'est pas des gars de la côte, quoi.
Oui, oui.
Leur stratégie est prise en défaut, du moins leur tactique.
Quelquefois. Heureusement.
Non, mais moi j'ai trouvé ça désopilant, mais bon.
Il y avait finalement aussi, il y avait quelque chose qui passait mal au niveau de, du projet. C'était le fait qu'on s'attaque à la mer quelque part. Parce que 2 ans auparavant, il y avait eu la Moco Cadiz. Hein, il y avait eu d'autres marées noires avant.
Il y en a eu après.
Et il y en a eu après. Et la Moco, ça avait frappé les esprits, c'était resté bien présent. Et donc les gens, dans l'information qu'ils avaient et la réflexion qu'ils avaient, se disaient, le fioul, au moins, il est visible. On ne pourra pas dire que ça n'a pas existé. Tandis que la radioactivité invisible et tout ça, c'était quand même beaucoup plus facile pour des discours lénifiants, quoi. Et toucher à la mer en Bretagne, ça passe mal aussi. La mer, quelque part, c'est sacré. Et il y avait, quand EDF leur a donc promis la Lune, ou enfin, des projets de courtes de tennis, du golf, la piscine et tout ça, les femmes de Plogoff ont dit, mais nous, on leur disait, mais nous, on a la mer. La mer avait un potentiel comme ça extraordinaire. Et donc, voilà, on n'a rien besoin de tout ça. Je pense que le côté... ils étaient ni riches ni pauvres, en gros. Hein, ils n'étaient pas très pauvres, ils n'étaient pas très riches. Et donc, il y avait une sorte de... Pierre Rabhi, vous savez, parle de la sobriété heureuse. Eux, ils se trouvaient bien comme ils étaient. Et donc, les projets comme ça... complètement, ça leur paraissait délirant, mais on n'a pas besoin de ça. On est bien comme on est. Seule demande, c'est de rester comme on est. Nous, on se débrouille très bien comme ça. Et ça, ça désarmait un peu le gars qui était en face, parce que en général, il arrivait à convaincre sur ce plan-là. Hein.
Oui, mais ça, c'est, alors, ça, ce que tu dis là, ça me parle. En fait, ils leur promettent des équipements de citadins. Eux, ils ont le terrain de foot, ça leur suffit. Et puis, ils ont la mer pour le reste. Leur offrir Roland-Garros ou un sous-Roland-Garros, ben, avec le tennis, ils connaissent pas. Et puis, c'est un sport qui n'est pas de leur monde. Alors, leur faire des promesses d'aménagement de cette nature, c'est complètement à côté de la plaque. C'est méconnaître totalement le mode de vie des gens. Et ils ont, avec... la configuration géologique qu'ils ont, la mer où elle est et ce qu'elle est, et le terrain de foot pour se distraire quand ils sont jeunes, largement assez. Et on vient leur proposer des trucs qui ne sont pas du tout de leur monde. On veut leur changer leur monde, en quelque sorte, en société. Et bien, ils n'acceptent pas. Et ça, je trouve que c'est important aussi.
Oui, ça a joué un rôle, je me suis rendu compte. Et la place de la mer, il y a une anecdote qui m'est restée parce que c'était drôle. Ils sont donc, vous le voyez dans le film, ils sont allés au Larzac, en car. Hein. Et donc, quand ils sont revenus, ils ont le gars que vous voyez en train de bêcher, là, vous voyez, il y a une leçon de jardinage que vous prenez en même temps dans le film, là. Et il me dit, ils ont plus de cours, ils sont plus... comment dire, ils sont plus courageux que nous, quoi. Ils ont vraiment du mérite, oui, ils ont plus de mérite que nous. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'ils se battent depuis plus longtemps, voilà. Non, qu'ils me disent, c'est pas pour ça, c'est parce que leur pays est pas beau. Bon, alors je dis, ah bon, il me dit, ben non, ils n'ont pas la mer. Bon, voilà, ça résume beaucoup
mais
de choses.
Mais bon, le Larzac, c'est effectivement des bergers au départ qui vont se faire prendre leurs terres parce qu'on va étendre un camp militaire. C'est pas exactement de même nature. On peut pas dire que c'est le progrès. Mais il y a derrière une cristallisation qui est assez ancienne d'ailleurs. C'est une terre de refuge des camisards, c'est-à-dire des protestants fuyant les villes à la suite de la révocation des résidences par Louis XIV. Ils ont, depuis cette époque-là, cette mentalité. et viennent s'y agréger également un certain nombre de ce qui va être le début du développement de la pensée écologiste. Ils sont un tout petit peu en avance, à Plogoff aussi. Maintenant, ce que je constate quand même 40 ans après, c'est que tous les projets, que ça a été le Carnet, que ça a été sur la côte du Léon, Béganfri, que ça a été Plogoff, il n'y a pas eu de centrale nucléaire. Voilà. Est-ce que quelque part ils avaient anticipé sur la vision actuelle qui peut se dire maintenant il faudrait peut-être réduire la part du nucléaire. Bon. Ils étaient quelque part très proches de leur mode de vie et d'un mode de vie qui leur donnait satisfaction, qui était assez sain, bon, y compris le café. On voulait leur changer, on voulait leur imposer un changement de leur monde et un changement de leur mode relationnel, un changement de leur culture, de leur civilisation, d'une modernité dont ils ne sont pas absents, mais qui n'est pas la leur. Bon, aujourd'hui, ils ont tous des portables, rassurez-vous. Et puis, je crois qu'il y avait une espèce effectivement de solidarité. Le maire, c'était le maire, mais c'était un égal aussi. C'était pas quelqu'un qui était au-dessus d'eux.
Non, non.
C'était celui à qui ils avaient confié la gestion d'un certain nombre de choses, mais c'était pas le chef.
Au fond, la préfecture ferait bien d'être un peu plus près du terrain pour Plogoff, ou bien d'étudier un peu l'histoire pour le Larzac à cause des cas bizarres, effectivement. Il y a tout ça qui entre en jeu, c'est l'histoire d'un peuple derrière. Et ça ne s'oublie pas comme ça, ça se transmet quand même de génération en génération, et tout le monde n'est pas pareil, tout ça. Pour la conscience écologique, il y a eu un début en Bretagne au moment du remembrement.
Oui, tout à fait.
Les gens du remembrement, nous on a fait un diaporama sur ce sujet. Mais à ce moment-là, donc c'était les années 71-72, on pouvait encore... l'idée de progrès, si vous voulez, le progrès, c'était encore avec un grand P, un P majuscule. Et par rapport aux paysans qui se battaient contre le remembrement, on pouvait facilement le dire, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, que c'était des passéistes. Des gens qui tenaient à leur petite alu, qui n'avaient pas compris le progrès.
Aussi. Moi, je les ai défendus, ceux-là aussi, à l'époque.
Avec les ingénieurs
géomètres, qui étaient payés à la prime, oui. Avec des primes à l'arasement des talus.
Voilà.
Et qui traçaient leurs limites de façon à détruire, à raser le maximum de talus pour toucher la prime. Il faut savoir que ça fonctionnait comme ça, quand même.
C'était tellement vrai...
Et ça a été une catastrophe écologique.
Absolument. C'était tellement vrai, ce que dit Yann, là, que parce qu'ils avaient une opposition quand même forte. Il y avait une femme qui avait aussi l'âge de celle que vous voyez dans le film, genre 88 ou quelque chose, qui leur disait « Mais l'autoroute que vous avez faite devant mon Penty, là, c'est pour aller au paradis que vous la faites ?» Bon, c'était un peu gêné. Et cette phrase, il y a une phrase que j'ai retenue parce qu'elle résume tout cette absence de conscience environnementale. Ce sont les technocrates, on les appelait les technocrates à l'époque, voyant que le talus, on y tenait vraiment, ils disaient, bon, on va vous le garder, votre talus, on va déplacer le talus. Alors, vous avez les paysans du côté de Brasparts se regardaient entre eux en disant « Mais c'est pas possible, quoi. On déplace pas un talus. C'est des années de la faune, la flore. Enfin, c'est pas un tas de terre, quoi. Hein. » Et une incompréhension comme ça. Peut-être avez-vous une autre question.
Avant la question, je vais juste faire un petit rebondissement sur Notre-Dame-des-Landes, qui est toute la richesse du lieu, puisque non remembrée. Voilà.
Oui, merci beaucoup pour ce beau film. On voit écrit à la fin du film « à suivre ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et est-ce que l'idée vous a chatouillé ou vous chatouille de faire, comme on l'a vu pour le Larzac, de retrouver les acteurs de Plogoff 80, par exemple, 40 ans après, et de refaire un film avec eux?
Alors, non, c'était pas du tout ça. À l'époque, en 80, donc, quand on a terminé le film, on ne pouvait pas imaginer... Enfin, on n'avait pas... Il y avait un grand danger que Giscard d'Estaing soit réélu, parce qu'au niveau des sondages, il était gagnant. Et si Giscard d'Estaing restait à son poste, il ne l'aurait pas lâché. Hein, donc, les manifestants non plus, les gens de Plogoff non plus. Donc ça pouvait se radicaliser et devenir très grave, en fait. Hein. Je pense qu'il y aurait eu des morts. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je craignais. Mais nous, on s'était dit, alors là, je ne sais plus quel banquier aurait pu nous faire un prêt. Moi, je m'étais dit, il faut continuer. Donc, j'avais mis à suivre pour que les spectateurs de l'époque se disent, il y aura un autre film après, quoi. Hein. Et en fait, quand on obtient du CNC, que je remercie là parce que c'est la restauration, on n'aurait jamais pu se faire sans le Centre national du cinéma et sans la région Bretagne. Quand le CNC, je ne sais plus du tout ce que je disais, il y avait... Qu'est-ce que je disais, Jéan? Ah oui, pour continuer à faire un autre film... non, là, le CNC, de toute façon, n'aurait pas aidé. Pour eux, c'était un film sauvage. Et donc, on avait déjà du mal à obtenir un visa d'exploitation, en fait. Hein. Mais, on film sauvage ou pas, on l'aurait fait, quoi. Oui, pour la restauration, mes esprits reviennent, il fallait que la copie soit... c'est la version d'origine, en somme. Parce qu'il entre dans le film de patrimoine... ça va à la cinémathèque. Enfin, c'est sur des films qui servent aussi, c'est pédagogique aussi. Ils servent à montrer comment les films se faisaient à telle époque. Nous, en 80, d'autres sont plus vieux encore. Et donc, à suivre devait rester aussi. Je l'aurais bien enlevé, évidemment, mais voilà.
Bon, peut-être que... Sauf que à suivre, on ne l'a pas dit au début, on aurait dû le dire, c'est que le film s'arrête avant la fin de la lutte, quand même.
Enfin, il s'arrête avant.
Il s'arrête en
80. J'ai choisi de montrer un temps bien spécifique. C'est l'enquête d'utilité publique. Parce qu'elle dure 6 semaines. Donc un temps assez court, mais dense. À partir du moment où on voit ça, plus les procès, on comprend. Ça ne servait pas grand-chose après à montrer... On montre la fête aussi, évidemment, et on se met au montage très rapidement parce qu'on voulait montrer le film très rapidement. Donc on a fini le montage en août et à l'automne, le film sortait. Difficile de faire plus vite. Hein. C'est la raison. Et après vont venir donc les élections... les gens se mobilisent pour François Mitterrand, ça représentait l'espoir, puisque voilà. Et il arrive, le candidat Mitterrand arrive à Brest, foule de Plogoff, du Cap Sizun, et puis les antinucléaires en force, évidemment. Et avant son discours, il va comme ça auprès des spectateurs sur la scène. Et il leur dit cette phrase magique, Plogoff ne fera pas partie de mon programme nucléaire. Délire dans la salle, naturellement. Voilà.
Vous avez vu d'où vous étiez, ce qui...
Oui. On a vu, ils étaient à peu près une dizaine de gardes mobiles. Ils sont venus en courant vers le gars. Ils ont sauté dessus, ils nous ont donné des coups de pied, des coups de matraque, ils l'ont embarqué.
C'est quelqu'un
il
de
s'est
Plogoff
débattu, le gars s'est débattu. Hein. Oui.
C'est quelqu'un de Plogoff?
Oui.
Quel âge avait-il à peu près?
C'est un retraité. Et il participe à la lutte antinucléaire depuis le début.
Et là, il a été donc embarqué. Mmh. Et là, vous allez faire quoi, vous disiez maintenant alors?
On va voir ta femme, la prévenir, voir si elle a un avocat. Et si elle n'a pas d'avocat, on contacte un avocat nous-mêmes et on suit l'affaire.
Mais il y a tous les jours quelque chose alors?
Malheureusement.
Oui, je voulais évoquer le niveau de violence, à la fois des manifestants et aussi de la répression. Et faire un point de comparaison avec ce qui se passe actuellement. Et comparer peut-être avec Notre-Dame-des-Landes, les zadistes et la répression, les gilets jaunes et puis les manifestants contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez le sentiment que le niveau de violence était plus bas et que c'était une société plus pacifiée, moins violente?
Alors on va, je vais commencer puis je te passe la parole, Yann. On va essayer de se partager ça. Le film, il est allé à Cannes aussi pour ça, parce que ça résonne avec les luttes d'aujourd'hui, bien entendu. Hein. Il l'a de toute façon depuis 80. Il a été demandé dans beaucoup de combats. Quoi. Par exemple, les jeunes se sont révoltés contre le CPE à un moment. C'était Chirac qui mettait ça en place. Des dispositions spéciales pour les jeunes, c'est-à-dire que le salaire plus bas et tout ça. Bon, ils se sont battus, ils ont gagné, mais nous, on a passé le film à plusieurs reprises sur ce combat, dès qu'il y a eu au niveau du monde rural aussi, on est allé dans les campagnes où la désertification se mettait en place, la fermeture des hôpitaux, la fermeture des écoles, fermeture des tribunaux, tout ça. On demandait Plogoff parce que la résistance, hein, il symbolise la résistance, l'engagement, et puis en plus on a gagné, donc voilà, ça plaisait beaucoup. On est venu à Nantes ici où il y avait des étudiants qui nous ont demandé de venir, donc que des étudiants, que des jeunes dans la salle du coup, et puis on a eu un débat qui a duré jusqu'à 4h du matin. Je pense pas que aujourd'hui on n'aura pas la salle à 4h du matin, mais voilà, les débats ont été toujours riches pour ce film. On l'a passé dans les prisons, on l'a passé dans les îles. Bon, c'était tout ça. Je donne la parole à Yann qui a quelque chose d'intéressant à dire sur
moi. Ben écoutez, la question, je vais reprendre un peu d'historique pour que vous compreniez. 74, c'est le début de l'ère Giscard, après un départ de la scène un peu brutal de Pompidou, tout le monde sait pourquoi malheureusement, et une volonté de s'affirmer. Et c'est là que va être prise cette fameuse loi qui va servir à condamner les manifestants de Plogoff, qui est la loi anticasseur, qui va heurter beaucoup les juristes, et en particulier les avocats, parce que c'est la première fois qu'on va créer un délit de passivité. C'est-à-dire qu'on ne poursuit pas les gens de Plogoff pour ce qu'ils font, mais parce qu'ils n'ont pas quitté la manifestation. Et tout le débat, d'ailleurs, pendant le procès, ça a été est-ce qu'ils pouvaient la quitter parce qu'elle était encerclée ou est-ce qu'ils ne pouvaient pas la quitter, d'où le fameux épisode avec celui qui est à l'origine du scandale que j'ai généré, était dans la manif et qui en était ressorti et puis qui avait été arrêté 30 mètres plus loin et qui avait été pris par un deuxième canton de CRS et qui s'était retrouvé en garde à vue au séminaire comme les autres. Et celui-là n'était pas poursuivi. Et dans le débat, le procureur s'en sert pour dire « Mais attendez, les gens qui avaient à se reprocher, on les a laissés partir. D'ailleurs, j'ai la déposition de M. Machin, ce qui prouve quand même qu'il avait été mis en garde à vue, et qui racontait qu'effectivement, il avait passé un premier barrage, qu'on avait tenté sous toutes les coutures qu'il n'avait rien, et qu'il avait pu continuer. Et puis il s'arrête là. Sauf qu'après ça, il racontait la suite, et la suite, le procureur ne voulait pas l'évoquer. Moi, je dis, écoutez, si on a fait l'état d'une pièce, on la lit jusqu'au bout. Et je lis le deuxième épisode avec l'arrestation et la mise en garde à vue. Et ça se terminait par « À l'issue de son audition, l'intéressé est remis en liberté conformément à l'instruction reçue de M. le procureur de la République. » Alors, il se trouve que ce garçon, je le connaissais, que je connaissais aussi son parent, et je savais qu'il était magistrat du parquet. Donc, je le fais de manière un peu en creux, en disant je ne peux pas imaginer un seul instant que ce lien de parenté ait joué en quoi que ce soit dans le fait qu'il a été relâché. Alors, scandale du proc, et j'ai été la dernière victime du flagrant délit d'audience contre les avocats. Car ça a eu cette conséquence. Alors que ni les gens de Plogoff, ni moi ne prévoyons, c'est que donc le tribunal se retire sur le champ, obligé d'aller chercher à 7h du soir le bâtonnier. Le bâtonnier, c'est le président de l'ordre, si vous voulez, pour qu'il vienne là, qu'il aille voir le président pour essayer de négocier, que le président dise non et que le proc assiste, et ils m'ont jugé tout de suite. Ça n'a pas été sans émotion. Parce que bon, j'étais quand même un tout petit peu protégé, parce qu'à Nantes, ici, j'étais quand même membre du Conseil de l'Ordre. le lendemain matin, donc je suis jugé le soir, mes deux amis, Bernard Rioux, que vous avez vu sur l'écran, et Jean-Pierre Mignard, là, qui n'était pas sur le film, disent ben, il faut renvoyer parce qu'il manque un avocat, vous l'avez suspendu, on ne peut pas continuer comme ça, etc. Bon, il renvoie à 10 jours, ou 11 jours plutôt. Et le lendemain matin, le bâtonnier de Quimper convoque une assemblée générale de l'ordre à 9h le matin, et le barreau de Quimper se fout en grève. L'après-midi, moi j'étais rentré à Nantes, le bâtonnier de Nantes réunit son conseil de l'ordre, l'ordre de Nantes se fout en grève, et ça fout une traînée de poudre dans toute la profession, et ça a abouti à ce qu'après l'arrivée de Mitterrand, il y a eu une loi qui est passée. Enfin, il y a d'abord l'abrogation de la loi anticasseur. Il y a eu une loi de réforme qui est passée où on a supprimé le pouvoir aux juges de pouvoir juger les avocats pour des infractions dont ils se présentaient comme victimes. Vous savez, c'était les victimes qui siégeaient là. L'outrage à magistrat, etc. Bon, nous qui avons subi les choses, nous allons vous juger. Ce sont des juges indépendants et impartiaux, on l'a tout de suite compris, objectivement. Bon, donc ça a été terminé, et on a obligé, après, quand il y avait un incident, à saisir l'instance ordinale pour qu'elle se prononce. Et puis, la deuxième chose qui, alors, là, me fait beaucoup plus sourire, c'est que quand je suis rentré dans ce métier, on prêtait un serment qui avait encore quelques relents des années 40 et quelques. Dans lequel on jurait d'exercer nos fonctions avec dignité, probité, etc., etc., et de ne jamais nous écarter du respect dû aux juges et aux autorités administratives. Et cette partie du serment a été supprimée, ce qui fait que je suis censé ne l'avoir jamais prêté et que tous mes successeurs n'ont pas prêté un serment indigne. Alors, vous voyez, et je peux vous dire que lorsque l'affaire... Moi, j'avais fait appel de la décision. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la cour d'appel a annulé la décision. Mais le jour de l'audience, il y avait 40 bâtonniers en exercice qui étaient présents à la cour d'appel de Rennes. C'est vous dire... Et il y a eu une réaction de la profession sur la défense, de la défense, en quelque sorte, que moi, je n'avais pas du tout prévu. J'ai été un espèce de catalyseur inconscient d'un mécontentement de la profession qui se faisait encadrer, limiter, etc., depuis un certain temps, et ça a abouti ensuite à une réforme qui a permis d'exercer de manière plus importante les droits de la défense. Mais ça, ni les plogophytes ni moi ne l'avions prévu.
Non. On prévoit pas tout.
On va prendre peut-être une dernière question.
Déjà, merci pour le film, parce qu'il est... Enfin, j'ai adoré. Et ma question, c'était à propos des images qu'on peut voir. Il y a certaines images qui sont fort à l'intérieur même de l'action. Et je voulais savoir s'il y a eu des limites qui ont été posées au moment du tournage pour éviter les prises de risque trop fortes, ou même si au moment du montage, il y a une censure qui a été effectuée. Parce qu'aujourd'hui, même dans les médias, on a tendance à voir des images bien plus physiquement violentes. Là, il y a une violence assez induite de par les images. Je pense notamment au pendu immolé à la fin... Voilà.
Alors, c'était effectivement une responsabilité, l'image. C'était donc Félix Le Garec, mon mari. Prendre un manifestant en action, ça pouvait être dangereux pour lui. D'ailleurs, on a fait venir Annick Herbal, qui était la présidente du comité de défense, pour voir l'image. Hein. Voilà. Et en même temps, il fallait qu'on montre les choses. Donc ça a toujours été il fallait se dire bon bah ça il faut le mettre, ça peut-être que non. Voilà, le son, on était beaucoup plus libre avec le son évidemment, et c'était aussi la caméra qui recevait les grenades, parce que ça les gênait, l'image les gênait beaucoup en fait. Et donc, on avait notre petite façon de nous défendre. Félix avait obtenu un brassard de presse auquel il n'avait absolument pas droit. Parce qu'évidemment, tout ce qui était le haut de la hiérarchie dans la préfecture, on ne pouvait rien en attendre. Mais quand on descendait un petit peu dans l'échelle, il y avait des gens qui étaient pour nous. C'est-à-dire pour les gens de Plogoff, pour le combat et tout ça. Et donc, on lui avait donné ça. Après, on avait travaillé un petit peu pour la télévision allemande. Et donc, on a fait circuler cette information. Et puis, on a un peu grossi aussi la réalité en disant, mais il y a d'autres pays aussi. Et les CRS eux-mêmes, les gardes mobiles plutôt, ils ont eux-mêmes, du coup, la rumeur, vous savez, prend forme. Et ils ont dit, mais comment ça se fait que le Japon aussi vous demande des images de Plogoff? Pourquoi ça intéresse tellement les gens? Alors nous, on disait... Parce qu'il faut dire que dans la journée, on est en phase 2 toute la journée. Et donc, il y avait ce temps fort. Ils appelaient ça la messe, les gens de Plogoff. Les fans de Plogoff avaient travaillé le vocabulaire. L'hélicoptère, c'était la mère poule. Les séminaristes, c'était les gardes mobiles, parce qu'ils dormaient dans le séminaire de Pont-Croix. Voilà, c'était. On avait donc toujours droit à la grenade. En même temps, ils ne pouvaient pas aller trop fort. On n'avait pas le peur d'être arrêtés, nous, parce que là, c'était quand même. Ça aurait été. On était protégés. Les gens de Plogoff tenaient beaucoup au film. Et il y aurait eu révolution dans le pays, quoi. On aurait vraiment, comme il n'y avait pas beaucoup de médias, comme il n'y avait pas les télévisions, nous on prenait de l'importance pour ça, évidemment. L'image, c'était ce qui allait durer dans le temps. Ils n'avaient pas tort, vous voyez. Voilà. Oui, dans la journée, hein, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est difficile parce que. Ça se passe en ville, c'est surtout les affrontements. Alors qu'ici, on était en pleine campagne. Ils arrivaient comme ça dans un lieu paisible. Ils se sentaient eux-mêmes. On leur disait qu'ils étaient des envahisseurs, qu'ils étaient vraiment... j'aurais honte. J'ai l'âge d'être ta grand-mère. J'aurais honte d'avoir un petit-fils comme toi, tout ça. Ça les marquait, finalement. Ça les marquait parce que... J'ai interviewé, on a filmé un garde mobile plus tard, quand il a été en retraite, et qu'il a voulu revenir au séminaire de Pont-Croix, là où ils étaient hébergés. Le propriétaire, celui qui était devenu propriétaire du séminaire, c'était vendu, c'était privé à cet époque-là, m'a dit, je crois qu'il accepterait d'être filmé. Nous, ça nous intéressait beaucoup. On lui a demandé s'il a vu le film, il ne l'avait pas vu, et on lui a demandé l'autorisation de le filmer pendant qu'il regardait le film. Et au début, c'est très premier degré, il se trouve, les femmes, ça les... Oh là là, que c'était dur, enfin, il est en colère après les femmes, encore 15 ans ou 20 ans après, quoi. Et bon, on le laisse, et arrive le moment du goûter. Et là, il craque, et il met la tête sur ses bras, comme ça. Nous, on filme un peu, puis on arrête de filmer. On était en une scène, quand même. Et finalement, il pleurait. Et il nous a dit... On nous avait appris à nous battre contre les jeunes, mais 68 n'était pas si loin. Mais jamais contre des femmes et des vieilles femmes, des grand-mères, quoi. Et donc, ça, rien que ça les déstabilisait à l'époque, hein. Et voilà, ça fait du combat de Plogov, ça lui donne une connotation un peu particulière, parce qu'aujourd'hui, c'est dans les villes, et que la confrontation, elle est presque immédiate, hein, j'ai l'impression que c'est violent. Et là, ils n'étaient pas à l'aise. C'est pour ça qu'on a amené les parachutistes après, quoi, qui, eux, passaient outre, évidemment. Hein. Voilà. Bon.
Achever la question qui a été posée tout à l'heure, par rapport à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, le problème qu'ont eu Nicole et Félix n'existerait plus. Tout le monde a des smartphones. Et les gens qui veulent aller à la collecte sur les réseaux sociaux pour trouver les images des répressions violentes, et elles sont aussi violentes, sinon plus, qu'elles ne l'étaient à l'époque, ça ne peut plus se cacher. Aujourd'hui, la répression, les bavures, ça éclate partout. C'est quand même peut-être un signe, j'en sais rien, mais la fin du règne Giscard, si je puis dire, c'était la fin d'une époque. On l'a vu d'ailleurs dans tout ce qui s'est passé après, l'abolition de la peine de mort, etc. J'ai l'impression l'histoire ne recommence jamais à l'identique, mais on est dans une période un peu similaire, et j'ai l'impression qu'actuellement, faute d'autorité, on use de l'autoritarisme.
Et que le militantisme est en train de réémerger, et notamment chez les jeunes, parce qu'on reçoit pas mal de jeunes qui viennent nous voir, et je suis étonnée et agréablement surpris par l'énergie qu'ils ont et les projets...
Et l'inventivité.
Voilà.